Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manirakiza, en votre compagnie, à la mise en onde Lionel Kounamira Gahima. Ce soir, nous abordons encore une fois le thème de la fuite des capitaux hors d'Afrique, inspiré d'un livre qui vient de consacrer plus de 20 ans de recherche sur ce sujet. Dans cette discussion, nous sommes avec Léonce Ndikumana, un intellectuel burundais, ancien doyen, est professeur distingué à l'université de Massachusetts, ici aux États-Unis. Il est l'éditeur du livre intitulé en anglais On the Trail of Capital Flight from Africa, The Takers and the Enablers. Professeur Ndikumana, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'occasion de parler à nos écouteurs.
Le titre de votre livre.
On pourrait dire sur la piste de la fuite des capitaux en Afrique, les bénéficiaires et les facilitateurs.
Merci d'être avec nous, professeur Ndikumana. Nous sommes en ligne avec Prime Nyamoya qui se trouve à Toronto au Canada. Vous êtes économiste et ancien banquier. Bonsoir, monsieur Prime.
Bonsoir, Eric.
Également avec nous, Amadou Cissé, économiste à la Banque mondiale. Il est ici dans le Maryland aux États-Unis. Bonsoir, monsieur Cissé.
Oui, bonsoir, Eric. Je dois dire rapidement, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, parce que je suis retraité, mais actif.
Merci de votre précision, votre clarification. Monsieur Léonce Ndikumana, quel est le rapport entre la fuite de ces capitaux et l'endettement public en Afrique?
Ça, c'est une question très, très importante. Dans nos travaux, on a beaucoup exploité cette question. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que une grosse partie des dettes qui sont contractées par les pays africains, malheureusement, finit par enrichir les poches des dirigeants politiques dans un phénomène qu'on appelle la porte tournante où les dettes en fait, sont données par les banques, soi-disant au gouvernement africain, mais en fait, une partie de ces dettes est capturée par les dirigeants politiques et rentre dans les mêmes banques qui ont prêté au gouvernement, donc rentre dans les systèmes financiers occidentaux. Dans nos estimations, on a trouvé que jusqu'à 60% de la dette empruntée par les pays africains retourne à l'extérieur comme fuite de capitaux. C'est dramatique. Alors, pourquoi cette question est importante? C'est que quand un pays emprunte 100 dollars pour financer le développement et que 60 dollars retournent dans les pays de l'Occident comme fuite des capitaux, d'abord, le pays n'a bénéficié que de 40 dollars. Mais ce qui est dramatique, c'est que le pays, les peuples africains, sont redevables pour tous les 100 dollars qu'ils ont empruntés. C'est-à-dire que les pays africains vont maintenant ponctionner leurs ressources pour payer des dettes desquelles ils n'ont pas bénéficié. C'est ça l'aspect dramatique de la fuite des capitaux. C'est-à-dire que ce sont des écoles qui ne sont pas construites, ce sont des hôpitaux qui ne sont pas construits parce que les pays sont en train d'utiliser leurs ressources pour payer des dettes qui n'ont jamais bénéficié au pays en termes de financement du développement.
Amadou Cissé, l'Afrique, malgré ses vastes richesses, le continent ne parvient pas à boucler, par exemple, les déficits structurels budgétaires. Quel devrait être le rôle des institutions africaines? Il y a l'Union africaine, il y a des institutions financières régionales.
Voilà, ces institutions doivent mieux aider les pays africains, notamment par des coopérations techniques très, très, très ciblées en matière, disons, d'amélioration de la gouvernance, notamment sur le plan de la gestion financière publique, donc sur le plan de l'identification des investissements qui sont vraiment porteurs de développement, sur une façon optimale d'accumulation de la dette, donc qui coûtera beaucoup moins cher, et aussi sur la façon de contrer les flux financiers illicites tels que ça ressort du travail de Léonce Ndikumana. Il est très important de mettre un éclairage sur ceci parce que, comme on le dit, shine and shame. Quand on met de la lumière, quand on quantifie, on peut mieux gérer. Donc c'est très important de connaître ces choses-là. Et ensuite, il faut dire que la coopération de ces institutions permet aussi de valoriser, disons, les autres aspects, les autres apports financiers au continent. Par exemple, les travailleurs immigrés, leurs apports, leurs envois de fonds en Afrique, en fait, comme on le dit, sont même supérieurs à l'aide publique au développement. Donc, en ayant une meilleure gestion de ceux-ci, par exemple, par des coûts de transfert moindres que ceux qu'ils sont actuellement, on peut mieux aider l'Afrique à optimiser sur les fonds disponibles pour le développement. Et je vais finir par une image, par deux images. Le canari percé ne peut pas faire de la cuisine. Le canari percé, c'est justement ces flux financiers qui ressortent du continent. Si ces flux financiers restaient et disponibles pour le développement, l'Afrique serait une source merveilleuse de développement pour diminuer la pauvreté dans le continent et rendre réelle l'image des lions en mouvement, des lions africains en mouvement qui peuvent rattraper les tigres asiatiques. Voilà, je finis par cette idée.
Amadou Cissé, vous aviez eu à rapatrier de l'argent du Nigeria. C'était l'argent de l'ancien président, c'était Sani Abacha ou Ibrahim Babangida. Et comment cette opération avait été menée?
Bon, je pense qu'il faudra, disons, se renseigner dans les détails techniques de ces opérations. Mais ce qui est important, c'est que la formule elle-même est très, très louable. C'est que des fonds qui avaient été identifiés comme ayant une origine africaine et s'étant réfugiés, disons, dans des banques, dans des paradis européens, ont pu être retracés, identifiés et repatriés dans le pays d'origine. Et ça, c'est extrêmement important et ça, c'est une des prouesses de ce STAR Initiative et qui a été, disons, systématisé, disons, dans, comme je vous l'avais dit, dans le Global Forum on Asset Recovery. Je pense qu'il serait bon de Google sur leur site et de voir dans le détail ce qu'ils ont pu faire concrètement ces dernières années.
Léonce, comment lier ces fuites des capitaux hors d'Afrique avec les nombreux problèmes qu'on voit sur le continent, notamment le chômage, l'inégalité sociale et d'autres maux qui minent le continent?
Le problème de la fuite des capitaux a des liens clairs avec les problèmes de développement que confronte l'Afrique, comme le chômage, la pauvreté, l'inégalité, le manque d'infrastructures, parce que, comme je l'ai dit, la fuite des capitaux constitue un drainage de la base de l'enveloppe des ressources disponibles en Afrique. Directement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des fonds qui sont empruntés par ces pays qui n'arrivent pas à être utilisés pour le développement. Donc ça, c'est déjà des manques, un manquement en termes de financement des travaux de développement, des projets de développement du gouvernement. Deuxièmement, au niveau des privés, dès que les individus et les entreprises dissimulent leurs ressources, leurs biens vers l'étranger, souvent de capitaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça diminue le financement de l'investissement privé dans le pays. Ensuite, ça diminue la base taxable au niveau du pays. Et ceci va entraîner un déficit entre les besoins d'investissement et l'épargne globale. Ce qui explique, en fait, c'est une façon d'expliquer le fait que le taux d'investissement reste très, très bas en Afrique. Et ceci explique aussi le taux de croissance qui reste insuffisant. Deuxièmement, j'ai dit que ceci a des implications claires sur la pauvreté parce que la pauvreté en Afrique est due notamment à la faible croissance des revenus, à la faible provision des biens et des services publics comme l'éducation, la santé et l'infrastructure. Et aussi, ça a des implications sur l'inégalité dans le sens que les bénéficiaires de la fuite des capitaux, ce sont des individus qui sont déjà dans la sphère des revenus élevés. Donc, dès que les revenus, les biens de ces individus sont dissimulés et envoyés à l'extérieur, ça veut dire que pour eux, déjà, le taux de taxation diminue, ils continuent à s'enrichir et en bénéficiant des rendements à l'étranger. Ensuite, ils sont protégés contre les effets de la dépréciation de la monnaie nationale, puisque leurs biens sont détenus en devise forte. Donc, eux, ils sont protégés des chocs sur l'économie nationale, des chocs sur le marché d'échange, des chocs au niveau des taux de change. Donc, en fait, tout ceci contribue à agrandir le fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, les riches et les pauvres.
Prime, vous avez décortiqué ce livre sur la Côte d'Ivoire. Vous dites que, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture ou la culture du cacao, l'agriculteur ivoirien, vous dites qu'il ne reçoit que 4 à 7% du prix final. Voudriez-vous en dire davantage?
Oui, d'après les statistiques qui ont été produites, et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, il y a aussi d'autres pays en Afrique. Il ne faut pas oublier que le Burundi, qui est producteur du café, est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que l'agriculteur africain reçoit très peu en termes de valeur ajoutée finale. Quand on voit le prix du chocolat dans les pays riches et ce que l'on paye à l'agriculteur du cacao en Côte d'Ivoire ou à l'agriculteur du café au Burundi ou dans d'autres pays en Afrique, ça n'a rien à voir. Ce sont tous ces rapports de force qu'il faut changer. Et nous savons très bien où va la rente, comme ça a été expliqué très bien par le professeur Léonce Nikouman. Tout le problème de savoir comment allons-nous changer cet état de choses. Je pense que tout le problème se trouve là. Quand, par exemple, l'expert sur l'Angola préconise qu'il y ait redistribution équitable du produit du pétrole à tous les citoyens angolais, soit 27 000 dollars entre la période de 92 et 2004, ça me semble un tout petit peu hors de portée politique. Est-ce que les esprits ne sont pas encore tout à fait prêts à mettre en place une telle politique?
Amadou Cissé, on parle de cette évasion des capitaux. Maintenant, les rapatrier, c'est un défi majeur. Comment peut-on, par exemple, réinvestir le peu qu'on peut et rapatrier? Est-ce que y a-t-il des initiatives que vous voyez sur le continent dans ce sens? Je demanderai également à Léonce Ndikouman de répondre à cette question après vous, Monsieur Amadou.
Disons, nous pouvons considérer la conjoncture actuelle et nous pouvons aussi considérer, disons, la tendance lourde des besoins en Afrique, les besoins structurels. Dans la conjoncture actuelle, c'est que voilà une période après une grande pandémie qui a mis l'économie mondiale à mal et qui a mis à défi toutes les économies nationales, particulièrement en Afrique. Donc, toute ressource financière supplémentaire qui soit disponible pour financer les économies africaines peuvent être véhiculées en disons, en ayant en vue ces priorités-là, par exemple. En plus de ces priorités du moment, il y a les priorités structurelles qui sont là depuis longtemps. Le besoin d'équipement de l'Afrique, équipement aussi bien physique, disons que infrastructurel, les routes, l'électricité, l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé, aussi bien que l'infrastructure institutionnelle. Donc, investir dans le droit, on a vu ça tout de suite dans cette discussion, on peut améliorer la réglementation bancaire, la réglementation financière et commerciale de manière à minimiser, disons, les transferts illicites de fonds. Alors, donc, voilà des pistes possibles où on peut investir tout nouveau produit, voilà, de recouvrement des fonds évadés.
Monsieur Léonce Dikouman.
Merci beaucoup, mon collègue Cissé, pour des points très, très importants. Je voudrais d'abord insister encore sur deux points importants. D'abord, c'est le contexte global, où la fuite de capitaux, en fait, est un des éléments de ces inégalités chroniques qui sont séculaires, où les pays en développement sont toujours défavorisés dans les relations avec les pays en développement. Et la fuite des capitaux, ce n'est qu'un exemple. Où, en fait, la fuite des capitaux, c'est le fait que les ressources du Sud, des pays en développement, continuent à servir à financer les économies des pays développés, comme avant la colonisation, pendant la colonisation, où les ressources minières du Congo, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire ont servi à enrichir l'Europe. Maintenant, c'est la continuation de ce phénomène, avec la seule différence où maintenant, c'est des compagnies multinationales qui font le pillage des ressources africaines, alors que dans le passé, c'était les États qui faisaient le pillage des ressources africaines. Mais c'est toujours le même phénomène où l'Afrique continue à être la source de financement des économies à développer. Le deuxième point, c'est en fait ce que mon collègue citait bien de mentionner, que l'Afrique, en fait, confronte des défis structurels qui ne sont pas nouveaux, mais qui, en fait, handicapent l'essor économique en Afrique. Le premier, c'est le gap entre les besoins de financement et l'épargne qui est disponible en Afrique. Et la fuite des capitaux ne fait qu'augmenter ce gap. L'autre, c'est en fait le défi de régulation du système économique où, en fait, même avec les grands efforts que les pays africains ont fait pour assainir le système financier, le système économique, on a remarqué que la libéralisation des systèmes économiques en Afrique n'est pas parvenue à endiguer le problème de la fuite des capitaux puisque la gouvernance reste toujours faible. Maintenant, un autre point que je voulais mentionner, c'est que à cause de cette imbalance, de ces déséquilibres économiques au niveau global, il se fait maintenant que l'Afrique souffre des effets disproportionnellement plus élevés des crises économiques. La crise du Covid a frappé l'Afrique beaucoup plus que les autres pays. La guerre en Ukraine maintenant, c'est les effets. L'Afrique n'a rien à voir avec cette guerre, mais malheureusement, elle souffre des conséquences économiques énormes à cause de la dépendance sur le marché international. Donc, en fait, la question de la fuite des capitaux, aussi bien comment freiner la fuite des capitaux, comment faire des progrès sur le rapatriement des capitaux et des capitaux qui ont fui dans le passé, qui sont à l'étranger, la discussion sur ces questions devrait être remise dans le contexte global où l'Afrique est toujours marginalisée, où l'Afrique reste toujours la source de financement des pays développés, où l'Afrique n'a pas de voix suffisante pour avancer ses propres intérêts.
Prime Nyamoya.
Mais il faut vraiment Merci. Que ce livre soit lu et commenté par Absolument. Le maximum d'Africains.
Absolument. C'est un livre très important, très, très important, parce que vraiment, éclairer, faire connaître un phénomène aussi important est crucial. Les gens en parlent, mais l'impression que j'ai de votre travail depuis une vingtaine d'années, vous le recherchez, c'est très important que ce travail soit connu du grand public.
Et que ce soit un Africain qui montre ce qui ne va pas.
Voilà, qui montre sa pertinence, absolument, absolument.
Il y a des choses qui sont absolument choquantes. Quand j'ai lu, par exemple, le passage où votre ancienne collaboratrice Ngozi Iweala,
oui.
Quand elle écrit dans son livre que combattre la corruption au Nigeria est extrêmement dangereux, ou quand l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, l'ami de Sanusi, dit que il s'insurge contre la manipulation frauduleuse de la NNPC. Et je trouve ça absolument incroyable.
Absolument. Et elle-même a été vraiment inquiétée plusieurs fois à cause de cela. Et en plus, elle avait été ministre des Finances là-bas et il faut dire qu'elle a dû s'extirper parce que établir un cadre de bonne gouvernance, ça porte directement atteinte à beaucoup d'intérêts établis.
Ces intérêts au Nigeria, sont gros les
Nigeria et partout en Afrique.
Ah oui, partout en Afrique, oui.
C'est-à-dire qu'il y a un danger à l'assainissement. C'est-à-dire ce que vous faites, c'est-à-dire que il y a un rôle vraiment public là-dedans. C'est-à-dire que, comme on dit en anglais, it's a public good. C'est-à-dire que c'est un rôle de bien public, le fait de faire savoir le
bien.
Voilà. Mais en même temps, il y a des dangers. C'est qu'il y a des intérêts bien assis en Afrique, pas seulement étrangers, mais des Africains, que ça dérange pas l'assainissement. Voilà.
Mais qui veulent vous supprimer à tout moment.
Absolument, voilà. Absolument. Oui.
Quand l'expert, par exemple, sur l'Angola dit, voilà, il faut redistribuer les recettes du pétrole aux citoyens angolais, je crois qu'on est encore loin du compte.
Oui, on est loin du compte. C'est-à-dire que quand je disais bonne gouvernance, c'est vraiment pour utiliser un concept, mais qui englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a tellement de façons. Par exemple, en parlant spécifiquement, disons de répercuter les revenus du pétrole en Angola sur les gens, on peut avoir des programmes de transferts sociaux, par exemple, sur l'éducation, la santé, les cash transfers qui targetent les familles les plus démunies.
Les bénéficiaires.
On peut faire ces choses-là. Oui, bénéficiaires, on peut faire ces choses-là, même avec des cartes de crédit, des choses comme ça, et permettant aux gens de bénéficier, disons, des produits miniers dans le pays. Mais là, il faut vraiment une volonté politique. Il faut vraiment une volonté politique de. Et puis l'autre chose, c'est que voilà, énorme. Et en plus, il faut que les pays africains aient la volonté politique de mieux négocier les contrats miniers pour le bénéfice des pays.
J'ai regretté dans ce livre que deux cas ont été omis, c'est la RDC et le Nigeria.
Voilà.
Mais il m'a promis que pour une édition ultérieure, les deux cas seront suffisamment commentés.
Il y a la Guinée aussi.
Mais il y a presque tous les pays d'Afrique.
Oui. Il y a la Guinée, il y a, comment on appelle ce pays
La Guinée équatoriale.
Il y a la Guinée équatoriale, il y a en Afrique du Sud,
c'est le Zimbabwe
qui a le cuivre.
La Zambie.
Zimbabwe. La Zambie, voilà, je cherchais la Zambie.
Votre collègue avoue qu'il y a quelques années, Damissa, quelque chose qui était Zambienne, qui
Damissa Moyo.
Oui, Moyo, qui prenait l'endettement des États. Et quand on voit ce que ça donnait, c'est plutôt un échec.
Absolument.
Parce qu'elle a omis de dire, c'est que quand on s'endette, l'élite politique s'arrange toujours pour avoir une partie sur l'endettement sous forme de commission et rétrocession.
Voilà. De rétrocession, absolument. Bon, il y a aussi les grandes fautes. Par exemple, si vous prenez le cas de l'Algérie.
Finalement, il a été
véhiculé vers une grande compagnie nationale qui, en réalité, était la poule aux œufs d'or pour une qui est là-bas. Et finalement, il y a eu les Arab Springs pour montrer que les jeunes n'ont pas du tout bénéficié de tout ça.
Pas du tout, oui. J'ai beaucoup d'amis algériens qui sont absolument outrés, d'ailleurs.
Absolument.
Moi, je souhaiterais que le livre de Léonce, qui est en case study sur chaque pays des 54 pays africains. Et c'est et nous allons constater que c'est pratiquement le même modèle de gouvernance politique. Il y a la fameuse indice Mo Ibrahim qui consiste à donner des bons points. Moi, je n'y crois pas beaucoup d'ailleurs. J'étais à la banque africaine de développement, je n'y ai jamais cru. Parce que lui-même, il faudra lui demander comment il a fait sa fortune, comment il a reçu la licence d'exploiter les télécommunications dans son pays sans tomber dans les travers de la corruption.
Absolument. On peut même systématiser ça à Transparency International.
Un ancien
collègue qui est en Allemagne. C'est la même chose. C'est-à-dire que ces organismes-là ont un rôle limité en réalité. Ça dissimule, par exemple, le phénomène des transferts de profits, transferts fiscaux vers les paradis fiscaux. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte par ces indices-là. Et puis, ils sont biaisés dans leur compréhension à penser que c'est les pays africains seulement
qui sont corrompus,
alors que, en fait, l'origine même, la source de la corruption, ce sont les entreprises des compagnies occidentales.
Absolument.
Voilà. Ce sont elles qui commencent la corruption. Le cycle infernal de la corruption commence par eux. Je donne un exemple, je viens de m'en rappeler. Si vous voyez le Libéria, il y a la firme qui est dans le caoutchouc, Unilever. C'est un État dans l'État. L'uranium au Niger, c'est la même chose. Et oh là là, c'est vraiment une boîte à Pandore. Vraiment, ce qu'on a dit, les Pandora Papers ont un nom bien appelé.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous sur la fuite des capitaux hors d'Afrique, inspirée du livre de Léonce Ndikoumana, un intellectuel burundais, professeur distingué à l'université de Massachusetts. Le livre intitulé en français « Sur la piste de la fuite des capitaux hors d'Afrique, les bénéficiaires et les facilitateurs ». Professeur Léonce Ndikoumana, merci beaucoup pour votre contribution dans l'Amérique et vous.
Merci beaucoup pour l'opportunité de parler à vos auditeurs.
Merci à Prime Nyamoya qui se trouve à Toronto au Canada. Prime Nyamoya, merci.
Merci à vous, Eric. de m'avoir donné cette opportunité de commenter le livre de Léon Nkoumane.
Merci à vous aussi, Amadou Cissé. Je souligne que vous êtes un ancien fonctionnaire à la Banque mondiale. Merci.
Voilà, merci beaucoup pour l'opportunité de la conversation et de connaître les autres invités.
Merci également à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. Eric Manelakidze a été avec vous à la présentation. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Au revoir. Merci. Bon.